France Inter.
On a décrit 500 000 espèces de plantes, quelques millions d'espèces d'animaux. Dans le plancton, il y a 10 millions, 100 millions ou 1 milliard d'espèces. C'est les cellules qui ont fait la chimie du monde. 99% de l'oxygène qu'on respire, c'est ces petites cellules qu'on appelle du phytoplancton. On est au tout début d'une espèce de révolution copernicienne, comme quand on a découvert que la Terre n'était pas au centre de l'univers.
Le 9 juin, à Nice, s'ouvrira la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. 10 ans après la COP21 et l'accord de Paris, l'objectif est cette fois de protéger cette source extraordinaire de richesse qui couvre 70% de la surface de notre planète. Le plan d'action de Nice pour l'océan, qui pourrait être adopté, ambitionne de mieux conserver l'environnement marin, de mieux encadrer l'exploitation de ses ressources, de promouvoir une économie durable, une économie bleue. Car si l'océan est essentiel à la vie, aux échanges entre les hommes, s'il régule les grands équilibres du climat, il est aussi fragilisé par la pollution et la surexploitation de certaines richesses. C'est dans ce monde sous-marin qu'Interception plonge aujourd'hui, dans le plus gros réservoir de biodiversité de la planète, invisible à l'œil nu, le plancton. Une biomasse colossale qui regorge de micro-organismes dont l'homme peut bénéficier dans la lutte contre le changement climatique, la dépollution ou la santé.
Notre premier principe actif a été homologué en 2007. C'était un moment important pour nous, car ça a confirmé notre hypothèse selon laquelle il y avait des antitumoraux à découvrir dans la mer. Notre premier médicament a été le Yondelis, destiné au sarcome des tissus, qui a aussi été approuvé pour le cancer de l'ovaire.
Mais pour exploiter la puissance du plancton, il faut d'abord prélever, identifier, classer, comprendre les micro-organismes qui le composent, ce que les avancées technologiques permettent de plus en plus. La France joue un rôle central. Grâce à ses territoires d'outre-mer, elle possède l'une des plus grandes zones économiques exclusives. Grâce à sa marine nationale qui sillonne ce domaine maritime gigantesque, elle contribue à moindre coût à cette révolution scientifique. Dans l'immensité de l'océan, la révolution de l'infiniment petit, c'est un reportage de Sophie Bécherel qu'on retrouve à bord d'un bâtiment de la Marine nationale où militaires et scientifiques travaillent main dans la main.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Nous sommes à bord du Champlain, l'un des 4 navires de soutien et d'assistance de la Marine nationale. Le Champlain est basé à La Réunion et on est donc en plein océan Indien. Il rentre d'une mission de ravitaillement des îles Éparses dans le canal de Mozambique et des missions également de surveillance police des pêches, trafic de migrants ou trafic de drogue. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie civile de sa mission, c'est-à-dire que le Champlain participe en même temps que ses missions militaires à un programme scientifique baptisé la mission Bougainville. Ça consiste à collecter du plancton le plus souvent possible dans ces endroits extrêmement isolés où peu de navires vont, afin d'en constituer une espèce d'atlas, un échantillonnage global pour mieux comprendre le fonctionnement de l'océan, puisque le plancton est absolument indispensable à la vie des océans, bien sûr, mais la vie sur Terre. Et nous allons rejoindre à l'arrière du bateau Romain Parsa, un étudiant en master de Sorbonne Université, un étudiant en biologie, embarqué à bord, qui réalise ses collectes.
Je m'appelle Romain Parsa, je suis officier biodiversité dans le cadre de la mission Bougainville pour cette année. Je suis en année de césure, là, donc je suis encore dans le cadre de mon master. Participer à des grandes missions scientifiques embarquées, ça a un peu toujours été un objectif et un rêve d'enfant en vrai. Et donc voilà, pouvoir le faire sur un bateau de la marine, c'est encore plus spécial, surtout que c'est un monde que je connais pas du tout. Et donc voilà, expérimenter quoi.
Est-ce que vous aimeriez mettre mes brassières de travail, pour
faire une affaire? Ouais, j'imagine, je vais trouver ça.
Reçu.
Je veux des brassières pour la sécurité.
Quand on arrive, je t'envoie un mail pour t'aider.
Petite valise, il y a quoi?
En gros, c'est un kit de filtration. Ça permet de retirer toute l'eau de l'échantillon et juste d'avoir du plancton en fait sur une petite galette ici qui fait 10 micromètres d'épaisseur. En gros, il y a une pompe qui va pomper tout le canton et les chansons sur un petit filtre. Et on n'aura plus qu'une petite galette qu'on va plier et mettre dans un petit tube qui va être envoyé plus tard en métropole pour faire analyser tout ce qui est génétique dedans. Donc tout l'ADN, l'ARN, etc.
Ce qui est surprenant, c'est que tout est démontable. Ça ressemble presque à une caisse de jeu, quoi, mon apprenti chimiste.
Exactement. C'est un peu l'idée de biologie. L'idée, c'est de faire les choses les plus simples possibles, déployables partout, et tout est fait à la main ici.
Donc là, on peut donner une idée de la situation. Il fait nuit, on est sur le port arrière du bateau.
Ouais.
Il y a du vent, donc le bateau ne s'est pas arrêté. Vous allez jeter votre filet, c'est ça?
Ouais.
Abri.
Autorisation pour mettre le filet à l'eau?
Vers mise à l'eau, vite la surface, file.
Reçu. Donc avec différents filets, on s'intéresse à une partie très spécifique du plancton parce qu'il y a plein de tailles différentes. Ça va du nanomètre, donc avec les virus, les bactéries, jusqu'au mètre avec les méduses. Parce que les méduses aussi sont du plancton parce qu'elles ne peuvent pas nager contre le courant. En fait, le plancton, on le définit comme tous les organismes qui ne peuvent pas nager contre le courant, donc qui sont soumis à sa dérive. Et donc nous, dans la gamme de tailles qui nous intéresse, ça va être entre 20 et 200 micromètres. Donc là, c'est ce qu'on va regarder avec ce filet-là aujourd'hui. Et c'est notamment dans cette gamme de tailles qu'on retrouve beaucoup de phytoplancton qui nous intéresse pour plein de raisons, et notamment sa fonction de régulateur du climat, globalement à l'échelle mondiale. C'est lui qui produit 50% de l'oxygène qu'on respire et il régule le climat, ouais, il régule l'équilibre en fait de la Terre au niveau climatique.
Ce dont on n'a pas idée, c'est que ce monde de l'invisible, parce que vraiment on ne voit pas du tout à l'œil nu, quelle est sa densité par litre d'eau de mer? Il y a combien de micro-organismes marins dans un litre d'eau de mer?
On estime qu'il y a entre 10 et 100 milliards d'organismes dans chaque litre d'eau, donc sur l'échelle planétaire. Donc ça veut dire que si on remuait tout l'océan d'un coup et qu'on prenait un litre au hasard un petit peu, on retrouverait cette quantité là. C'est hyper intéressant et on essaie d'en savoir plus parce que tout ce petit monde en fait il est tellement important pour plein d'autres choses et il régule en fait tout le reste de la chaîne alimentaire et l'équilibre du système Terre.
Et quel est l'intérêt de vous avoir mis, vous, les étudiants, sur des navires de la Marine nationale qui sillonnent tous les océans?
Je pense que l'enjeu est multiple. C'est un partenariat qui a été créé entre la Marine nationale et Sorbonne Université. Pas mal de chercheurs de Sorbonne Université ont été impliqués dans l'expédition Tara Océan. L'idée vient d'eux en partie, et aussi c'est donner l'opportunité à des étudiants de s'engager dans des projets scientifiques qui sont très prometteurs et en fait c'est, qui ont vraiment du sens pour le coup, et qui sont pour l'instant aussi en stade de développement. Donc là on est encore en phase pilote du projet, et l'idée c'est qu'après il y ait plein d'étudiants, et même pas que, qui puissent échantillonner du plancton à travers le monde, rendre la science accessible à tous, en passant par les étudiants d'abord, et ensuite on l'espère à plus large échelle. Ça permet d'impliquer tout le monde et d'avoir un projet qui n'est pas que vécu et étudié par des chercheurs ou une minorité de gens qui comprennent ce qui se passe et qui ferait que les informations scientifiques ne circuleraient pas ou resteraient dans des blocs resserrés. À vous de canton.
Oui.
Est-ce qu'on est complètement à la dérive?
Non, on est à la dérive. Je débraye et je donnerai le verre à l'issue.
Alors maintenant, le Champlain a coupé ses moteurs. Pour cette partie du protocole scientifique, en fait, il faut qu'il soit à vitesse nulle et donc il se retrouve maintenant à la dérive.
Plancton, tapis, vous avez le verre mis à l'eau.
Reçu. Est-ce que je peux avoir la profondeur et la vitesse lock?
0,2 en arrière au lock. Profondeur, 4400 mètres.
Romain met en ce moment à l'eau ce qu'on appelle une CTD, c'est un instrument qu'on immerge pour mesurer la température, la profondeur et la salinité de l'océan. Ensuite, il larguera son filet de prélèvement qui va descendre jusqu'à 25 mètres. Et à ses côtés, le commandant Stanislas Barbeau est venu assister au prélèvement.
Il faudra noter, Lorient, l'heure de la mise à l'eau.
Cette CTD, elle vous donne finalement les paramètres physico-chimiques de l'océan?
Lorsqu'elle descend et elle remonte. Elle a commencé à enregistrer dès que je l'ai allumée à bord.
Par exemple, vous avez une idée de la température à la surface et à 100 mètres de profondeur?
Là, l'eau, elle doit être à 30 degrés en surface, un truc comme ça. Et on sera sûrement un peu plus fraîche à 100 mètres.
À la surface, nous, on l'a parce qu'on la mesure en permanence avec le bateau.
Il me semble que l'eau de l'océan Indien, c'est la plus chaude de tous les océans. En tout cas, en surface. Je vais mettre à l'eau le premier filet. 3, 2, 1, je lâche.
Capitaine de corvette Stanislas Barbeau, je suis le commandant de l'équipage B du bâtiment de soutien et d'assistance en Outre-mer Champlain. Alors la mission Bougainville, ce ne sera jamais la mission prioritaire du Champlain qui reste un moyen militaire. Néanmoins, on arrive à faire beaucoup de prélèvements parce qu'à chaque fois qu'on est dans une zone dans laquelle le prélèvement est autorisé, donc je pense à la haute mer ou en zone économique exclusive française, eh ben on prélève.
Ça vous a apporté quelque chose, cette cohabitation, ce voisinage ?
Alors déjà, ça m'a appris des connaissances sur le plancton. Par exemple, je ne savais pas à quel point il était important dans l'élimination du CO2 dans notre atmosphère. Comprendre comment évolue le plancton dans le contexte climatique dans lequel on est devrait nous permettre d'en savoir plus sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour que la planète reste vivable.
La présence de Romain à bord, c'est un étudiant en biologie, donc c'est vraiment un autre profil que le vôtre, Marine Nationale. Est-ce que vous avez une perception de la mer très différente ?
Les liens entre la communauté scientifique française et les bateaux de la Marine Nationale, ils sont historiques. Le nom du Champlain, d'ailleurs, et des autres bâtiments de la classe, c'est la classe Bougainville. Donc finalement, tous les noms des BSAOM sont des noms d'explorateurs. C'est une preuve des liens forts entre les scientifiques, les aventuriers et la Marine Nationale, qui datait déjà de l'époque de la Marine à voile. Ce qui n'a pas changé, c'est que les bateaux de la Marine Nationale naviguent pour des raisons qui leur sont propres dans des zones où peu d'autres bateaux naviguent. Donc ça intéresse la communauté scientifique.
Romain, en attendant que vous remontiez votre filet, dites-nous ce qu'on sait aujourd'hui du plancton.
Il y a du plancton partout dans les océans, donc ça veut dire qu'il peut se développer un peu partout globalement. On en retrouve majoritairement proche des côtes, parce que c'est là où il y a tous les apports de nutriments. Bon, les apports par exemple par les fleuves, donc ça a rapporté plein de nutriments donc de la terre. Aussi bah, du continent grâce aux pluies, au vent, donc il y a plein d'aérosols qui vont se déposer dans l'eau. Donc ça fertilise les océans, et donc ça crée ce qu'on appelle des blooms phytoplanctoniques. Une espèce de grosse efflorescence de phytoplancton qu'on peut observer vu de l'espace, donc par satellite, qu'on voit beaucoup.
Comme si c'était des fleurs qui éclosaient en même temps.
Exactement, hein.
C'est très impressionnant.
C'est exactement ça. Et donc même moi, j'en vois des fois, quand je fais mes échantillonnages ici, des blooms de microalgues, j'en vois, et je le vois aussi dans mes images. Des fois, il y a beaucoup de certains types de plancton. Et donc globalement, on les trouve beaucoup plus proches des côtes, en tout cas les plus gros. Après, dans le cœur des océans, il y en a aussi. Ils sont déplacés par les grands courants, donc les gyres, qui vont déplacer tous ces plantons-là.
Précisons que les gyres, ce sont de gigantesques tourbillons d'eau à l'échelle de la planète qui sont générés par les courants marins.
Pour monter du filet, bah, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on voit déjà un petit peu des petites choses ? Ah, des petites crevettes.
Ah bah voilà. Ah,
voilà. Bah, ça n'intéresse pas trop parce que c'est un peu gros. Mais je sais pas, on voit pas mal de choses en suspension.
Ouais, on voit pas mal de petites bestioles.
Donc tout ça c'est du plancton, on va aller voir ça d'un peu plus près. Et il y a sûrement encore beaucoup qui est coincé dans la maille, donc on va aller bien le rincer, c'est la partie un peu hyper importante. Okay. Abri de plancton.
Ah oui.
On a retiré le fil de l'eau, on peut se remettre à VMAX.
Ok, reçu, tu vois quand tout le monde est rentré à l'intérieur.
Reçu.
Romain a maintenant décroché son filet. Il va aller le rincer soigneusement. Ça va permettre de concentrer sur un filtre toute cette pêche de minuscules organismes. Et ces échantillons grouillants de vie vont ensuite être observés au microscope et comptabilisés. Et pour ça, on va monter dans le bateau, dans la salle de réunion. C'est là que Romain a installé son matériel. Un microscope qui est certes très rudimentaire, mais dont le grossissement permet de révéler la diversité et surtout l'incroyable beauté de ce monde invisible.
On est sur la partie imagerie maintenant, en salle de réunion. Donc pour ça, j'utilise mon planctoscope qui est juste ici. Donc globalement, c'est un microscope qui peut faire des photos ou des images de plancton. On met notre échantillon dans une petite seringue, juste ici en plastique, qui est sur un petit support en bois, comme ça. Et donc voilà, on va prendre des photos de plancton petit à petit, ces photons pour aller voir sur l'ordinateur. Et ensuite, tous les petits planctons individuels sur chaque image vont être détourés, mis sur fond blanc en augmentant la qualité pour les extraire en fait des images et avoir plein de petits objets, donc plein de petits planctons qu'on pourra ensuite classer. On fait la mise au point avec la petite molette en bois. Et voilà, notre petit échantillon du jour. On voit que ça grouille et que ça se balade pas mal.
Et là, il y a quoi ?
Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a surtout du zooplancton, je suis en train de voir beaucoup de copépodes, un peu comme d'habitude. Il y a des tintinides, ce qui ressemble un peu à des vers à vent. Là, là. Là, c'est une petite larve de mollusque. Ça, c'est un dinoflagellé.
Là, un autre organisme avec des longues antennes.
Ça, c'est un copépode. Et donc ça, c'est la version un peu adulte. Ça, c'est un copépode nouplie, donc c'est un stade du développement. Il y a plusieurs phases.
D'accord. Ou ça, là, qui ressemble à des espèces d'oursins.
Ça, c'est des acanthères. Celui-là aussi.
Mm-hmm. On en découvre encore ?
On en découvre encore, ouais.
Reste à découvrir le rôle de chacun, en fait.
Clairement, parce qu'ils ont tous des spécificités un peu propres, tous des manières de se développer, des manières de se nourrir. Les espèces d'étoiles là qu'on voit avec les pics, c'est des acanthères. Ils sont hyper abondants. C'est des organismes unicellulaires. La majorité qu'on voit, c'est unicellulaire, à part les copépodes. T'es pas trop de diatomées là, j'en vois pas, je vais vous montrer. C'est des algues, des micro-algues, donc planctoniques, qui sont hyper abondantes partout. Et en fait, elles sont faites de silice, un peu comme du verre. Et elles ont plein de formes différentes. Elles peuvent être en colonie ou toutes seules. Et on leur doit en partie la photosynthèse.
On a l'impression qu'il y a tout à faire encore.
C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On est dans des zones, surtout là où on est actuellement, des zones qui sont très peu échantillonnées. Ensuite, tous ces objets-là, ils sont mis sur une plateforme qui s'appelle Ecotaxa. Donc c'est une plateforme de classification, en fait, taxonomique du plancton. La taxonomie, c'est la science de nommer des organismes et de les classer selon leur espèce, leur famille, leur genre, etc. Et ensuite, il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent en fait d'accélérer le processus de tri et de classification pour ensuite pouvoir comparer d'année en année, de saison en saison. L'idée, c'est aussi de voir l'effet du changement climatique sur la diversité planctonique, donc si on remarque des différences dans les espèces, dans les distributions, tout ça. Comment être témoin d'un changement s'il existe et comment essayer de le limiter après au mieux.
Aujourd'hui, on a déjà une idée de ce que fait le changement climatique sur le plancton ou la réaction du plancton au réchauffement climatique.
Globalement, les eaux froides un peu des hautes latitudes se réchauffent de plus en plus et donc certaines communautés de plancton vont coloniser les hautes latitudes. Donc ça a pour effet de créer une absence de plancton dans les plus basses latitudes et donc ça bouleverse la chaîne alimentaire localement. Il y a eu pas mal d'exemples, notamment en mer du Nord, de stocks de poissons très diminués à certaines saisons parce qu'en fait il n'y avait plus de plancton, donc les larves ne pouvaient plus manger et donc le poisson ne se développait pas, il y avait peu de poissons et la pêche était directement impactée et l'homme aussi. Donc ça pose pas mal de problèmes globalement. Ensuite ouais, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements et de problèmes liés à la disparition de plancton ou à sa modification dans les communautés, dans la diversité.
Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la mission Bougainville que les Français prélèvent le plancton autour du globe. Mais l'inventaire a démarré il y a 20 ans avec les missions scientifiques de la Fondation Tara Océan. Elles ont lancé l'étude de la biodiversité marine, de ses micro-organismes et leur séquençage génomique. Les biologistes marins parlent d'ailleurs aujourd'hui de recherche sur le microbiome, la génétique de ces micro-organismes planctoniques. Direction le Finistère avec Sophie Becherel à Roscoff dans sa station biologique CNRS Sorbonne Université. Les meilleurs spécialistes y travaillent sur la plus large collection d'échantillons au monde.
Interception sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Voilà.
Vous nous accueillez avec le soleil, c'est plutôt.
Ouais, non, c'est cool. Puis en plus, il n'y a pas trop de vent. Ouais, il y avait du vent hier.
Donc voilà, nous voilà à la station biologique de Roscoff, une station du CNRS, temps merveilleux, et on retrouve Colomban de Vargas, celui que le plancton fascine, l'homme de l'invisible. Qui êtes-vous ?
Alors moi c'est Colomban de Vargas, je suis un Suisse, un Helvète des montagnes, et je suis directeur de recherche au CNRS aujourd'hui, à la station biologique de Roscoff. Depuis tout petit, en fait, je soulève les cailloux, j'essaye de voir un peu les limites du vivant. Et quand on essaie d'aller aux limites du vivant, on se rend vite compte en fait que ce qu'on voit pas est beaucoup plus diversifié et beaucoup plus inconnu que ce qu'on voit sur la Terre. Dans le plancton, c'est à peu près 60% de la biomasse qui est invisible. Mais c'est surtout beaucoup plus diversifié. C'est ça qui est, je crois, vraiment important.
Et moins bien connu.
Carrément inconnu, en fait.
Vous dites vraiment ça.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la planète Terre, depuis les 3,5 milliards d'années de la vie, pendant 80% de l'histoire de cette planète, il n'y avait rien à voir sur la Terre. Et il y avait déjà des organismes extrêmement évolués, il y avait déjà des cellules qui avaient plus de gènes que nous, alors qu'il n'y avait aucun animal, aucune plante. Et toutes ces cellules, tout ce microbiome, en fait, a fait les grands cycles biogéochimiques, a commencé à transformer les atomes en éléments plus complexes, a commencé à créer des minéraux, des montagnes, a commencé à oxygéner l'atmosphère. Donc toute la mise en place, en fait, de la biogéochimie, l'écologie globale du système Terre, s'est faite sans plantes et animaux. Donc ça, c'est quand même extraordinaire de savoir ça. Et nous, toute la biologie qu'on a fait depuis 3 siècles, à peu près, s'est faite sur ce concept plante-animal. Et, bon, alors quelques petits microbes, il y a quand même la levure, la Escherichia coli, enfin il y a deux, trois microbes dans l'histoire. Mais par contre, tout ce qu'on a regardé en biodiversité, toutes les grandes explorations des naturalistes du XVIIe siècle, puis du XVIIIe, sont allés voir les animaux. Les botanistes ont fait à peu près le compte des plantes sur la planète. Ça ne va pas beaucoup changer, on est à peu près à 500 000 espèces. On va peut-être arriver à 600 000 maximum. Mais par contre, tout ce qui est invisible, on a vraiment négligé. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de méthodes pour aller voir cette complexité. Mais c'est 80% de l'histoire du vivant qui a mis le système en place. C'est époustouflant. On est au début de la plongée dans ce microbiome. On a vu vraiment la pointe de l'iceberg, mais le vivant, c'est invisible, avant tout. On est vraiment à l'entrée de ces jungles invisibles, avec nos machettes qui sont des microscopes et beaucoup de techniques avec l'ADN.
On est maintenant dans la salle historique des aquariums de la station de Roscoff. Elle a 150 ans et on peut dire qu'elle est restée dans son jus. Il y a au sol des bassins en pierre avec des organismes marins et puis aussi des tables en granit gris sur lesquelles on voit des aquariums ouverts, eux aussi pleins de bestioles.
Donc dans ces bassins, c'est surtout le macrobiome, ces organismes visibles, traditionnellement étudiés en biologie marine. La vie est apparue dans l'océan, et la vie a commencé à évoluer dans l'eau de mer, donc on a vraiment la base de la biologie. Il y a des roussettes qui sont beaucoup étudiées pour le développement, il y a des ophiures, qui sont des échinodermes, il y a des oursins, plein d'éponges, il y a beaucoup d'invertébrés, Oui, là j'ai vu qu'il y avait des limaces de mer qui sont extraordinaires, qui volent dans l'eau. Elles sont belles, hein, petites limaces.
Ah oui, super colorées, et effectivement on a l'impression qu'elles ont des ailes, pour bouger. Ces mollusques, on peut dire qu'ils ont la taille d'une main à peu près.
À l'origine, comme toujours, dans ces stations, ils étudiaient les organismes visibles, parce qu'on ne pouvait pas trop aller dans le microbiome en fait. Et pendant très longtemps, le microbiome, c'était les virus, c'était les bactéries, c'était ce qui tuait les corps humains. Je pense que c'est ça aussi, il faut sortir de ça. Cette vision pasteurienne, elle est très forte. Ça va prendre du temps de comprendre que c'est nos meilleurs alliés.
Mais vous disiez tout à l'heure, on s'est beaucoup intéressé au macrobiome, donc aux organismes que l'on voit, en ignorant le microbiome. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des paradigmes qu'on doit complètement casser, enfin changer ?
Moi, je pense très fondamentalement, mais je suis assez radical, que des grandes théories vont tomber, parce qu'on n'a pas regardé justement le 99% de la biodiversité sur la Terre. Personnellement, je suis complètement incapable de vous dire aujourd'hui si dans le plancton, il y a 10 millions, 100 millions ou 1 milliard d'espèces. Et personne ne peut dire ça. C'est quand même dingue.
On ne sait pas encore.
On ne sait pas. Et c'est la même chose pour les sols, pour les forêts, pour les... C'est pas que le microbiome de l'océan, mais ces microbiomes, c'est terra incognita, quoi. Et comme ce sont des cellules, c'est essentiellement un monde unicellulaire, quand même, hein. Beaucoup, beaucoup de ces cellules sont beaucoup plus complexes que nos cellules. C'est ça qui est intéressant, qui est vraiment fascinant. C'est que les cellules humaines ne sont pas très complexes. Dans un corps humain, il y a à peu près 300 types cellulaires. Mais dans l'océan, je peux vous trouver déjà toutes les cellules humaines en forme à l'état d'espèces unicellulaires. Il y a des cellules qui ressemblent à des neurones, il y en a d'autres qui ressemblent à des cellules de muscles, il y en a d'autres qui ressemblent à des cellules de peau, enfin, il y a tout ce que vous voulez, mais beaucoup plus. Mm-hmm. Et en plus, ces cellules, comme elles vivent seules, elles sont génomiquement plus complexes. Il y a des petites cellules comme les coccolithophores ou les diatomées qui ont deux fois plus de gènes que nous. Elles mangent. À la fois, elles font la photosynthèse, elles doivent faire de la calcification pour se protéger.
Se reproduire,
voilà, elles ont de la sexualité. Donc en fait, elles sont beaucoup plus complexes que nous, en termes de génome, ce qui est hallucinant. On a décrit 500 000 espèces de plantes, quelques millions d'espèces d'animaux. On est face à un univers de vivants qu'il va falloir un peu ranger. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est pas facile déjà, hein, de faire un... Donc dans l'arbre du vivant, en fait, on est à mon avis au début d'une espèce de révolution copernicienne. Comme quand on a découvert que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Là, on va être vraiment, vraiment dans un petit coin de l'arbre du vivant. Et quelque part, mon boulot à moi, parce que j'adore le vivant et j'adore voir un peu les choses bizarres, c'est déjà de faire cet arbre du vivant. Je crois que c'est essentiel. Après, il va falloir lire toutes ces pages et puis comprendre comment ces organismes évoluent, surtout. Et comment ils réagissent à l'environnement, et comment ils... La plupart de ces cellules, c'est les cellules qui ont fait la chimie du monde. Par exemple, c'est elles qui ont fait l'oxygène de l'atmosphère.
Pendant très longtemps, il n'y avait pas de plantes. 99% de l'oxygène qu'on respire, c'est planctonique. C'est que l'atmosphère, il a été enrichi bien avant l'arrivée des plantes, il y a 400 millions d'années. C'est ces petites cellules qu'on appelle du phytoplancton. Et comprendre la biologie de ces organismes qui ont fait l'oxygène de l'atmosphère, c'est hyper important. C'est au moins aussi important que de comprendre comment soigner un corps humain. Parce que c'est vraiment les cellules qui font la maison. Pour comprendre comment ces cellules-là évoluent, s'adaptent au changement climatique, sont résilientes, communiquent, parce que tout ce monde-là communique. Dans le microbiome, il y a le plus gros réservoir de connaissances biologiques. On est au tout début de l'exploration de la plus grande jungle.
Colomban, vous évoquiez cet arbre de la vie qu'il va falloir redessiner. Les scientifiques appellent ça le classement phylogénétique. Vous parliez d'une jungle qu'on commence à peine à défricher. Et là, on se trouve devant un poster avec des tas d'embranchements. Ce qu'on voit au début, c'est qu'il y a les bactéries. Vous pouvez nous le décrire, ce poster, devant nous ?
Le microbiome, il commence là. Les plus anciens, c'est les bactéries, qui sont des cellules très simples, où il n'y a pas de noyau, il y a juste un ADN circulaire dans une membrane. Et donc les bactéries ont inventé tous les métabolismes possibles. Et puis après, il y a deux grands groupes qui apparaissent, il y a les archébactéries, et puis c'est probablement une symbiose entre une archébactérie et une bactérie qui a donné les eucaryotes. Et les eucaryotes, c'est nous, mais avant d'être nous, c'est tout un monde unicellulaire qui s'appelle les protistes. Et autant les bactéries et les archébactéries, on peut les étudier assez facilement parce qu'ils ont des tout petits génomes, donc on peut vraiment les découvrir dans leur totalité. Les protistes, là, on est perdu. Il y a des milliers de noms que personne ne connaît. Il y a peut-être une ou deux personnes au monde qui connaissent ces noms. Mais surtout, il peut y en avoir des centaines de millions, quoi.
C'est combien de gènes, par exemple, un protiste par rapport à nous ?
Un dinoflagellé ou un coccolithophore, ça peut facilement faire 40 000 gènes, 40-50 000 gènes.
L'homme,
on en a 25 000. Ouais. Donc c'est des cellules qui sont devenues très complexes, qui sont intelligentes. Il y a des dinoflagellés qui ont un œil, avec une cornée, une lentille, et puis qui voient. Et on ne sait pas du tout comment ils procèdent. Il n'y a pas de cerveau. Donc l'information est quand même processée. On ne sait pas comment. Donc c'est magique. Et elle voit et elle se dirige vers des proies, quoi.
En effet, c'est là où on comprend que ce qu'on a imaginé comme schéma de fonctionnement, ça ne vaut pas du tout pour ces micro-organismes. Quoi. Voir sans que l'information soit transmise à un cerveau, ça ne colle plus avec nos théories actuelles.
Voilà. Ouais, y a plein de dogmes en fait, qui ont été vraiment faits en étudiant les animaux et qui ne vont pas du tout marcher avec ces cellules.
Mais puisque c'est tout petit, comment est-ce qu'on va révéler en fait, les fonctionnements de ces organismes ?
Alors, je vais vous montrer. Donc en fait ici on a la plus grande collection au monde de microalgues. Bon. Et donc par exemple en fait dans chacune de ces fioles, il y a à peu près, je crois qu'il y a 10 000 souches de microalgues. Donc les microalgues, c'est les organismes qui font comme les arbres, qui font cette espèce de réaction miraculeuse qu'est la photosynthèse. Mais à l'échelle, mais une seule cellule. Donc c'est une seule cellule qui ont des chloroplastes, comme dans les feuilles des arbres, mais qui vivent à l'état unicellulaire. Et donc là, on a, à Roscoff, on a une collection de 10 000 souches, mais des centaines d'espèces de microalgues, qui sont en fait donc toutes les forêts profondes dans le temps. Ce qu'on commence à découvrir, c'est que justement là, ces microalgues vont avoir plus d'espèces que toutes les plantes terrestres, et qu'elles datent de bien, bien plus longtemps. Et donc à Roscoff, on a la plus grande collection de microalgues au monde. Une fois qu'on a une microalgue en culture et qu'on peut la faire se reproduire, maintenant on peut aussi les cryopréserver, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans de l'azote liquide et puis les figer et les remettre à la vie n'importe quand. Donc ça c'est génial parce qu'on peut là, on peut commencer à vraiment travailler dessus, à faire de la microscopie, à faire de la génomique cellule par cellule. Est-ce qu'il y a des différenciations cellulaires, à faire leur génome complet, de très bonne qualité. La plupart du temps, en fait, dans une microalgue de ce type-là, on aura 50% des gènes qui sont totalement inconnus encore. Mais maintenant, il y a aussi beaucoup de techniques de microscopie. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois, on peut aller les voir dans l'environnement avec des méthodes génomiques assez rapides, les ramener au laboratoire, et puis après passer à des méthodes beaucoup plus de haute résolution qui vont permettre de comprendre leurs fonctions, leurs entrailles. On ne connaît pas encore hein, même les organelles, qui sont les organes. Dans les cellules, les organes s'appellent les organelles. Il y a des nouvelles organelles qu'on découvre. On ne sait même pas à quoi ça sert.
Grâce aux prélèvements, aux banques de données qui s'enrichissent, à la puissance des ordinateurs, des séquenceurs et de l'intelligence artificielle, la recherche en biologie sous-marine accélère à l'échelle de toute la planète. Mais certains se sont lancés avant tout ça, de manière plus empirique. Sophie Becherel est maintenant en Espagne, dans la banlieue de Madrid, siège de Farmamar, une société unique au monde qui a mené 200 expéditions ces 40 dernières années pour constituer une collection de 500 000 invertébrés sous-marins. Elle y a trouvé des anticancéreux, mis sur le marché 3 médicaments qui ont déjà bénéficié à 150 000 malades.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Voilà. Sophie, bonsoir.
Enchantée.
Et bienvenue. Donc, allez-y, rentrez.
Alors, on s'habille. Elle.
Gracias.
Donc, on entre dans le laboratoire.
Okay, my name is Carmen Cuevas.
Carmen Cuevas.
Vice President.
Je suis directrice adjointe recherche et développement.
We are in the R&D labs.
Nous sommes dans les laboratoires où travaillent les équipes de R&D pour essayer d'identifier de nouvelles molécules afin de traiter des patients atteints de cancer. Tout commence avec les expéditions à l'étranger. Cette année, nous rapportons des échantillons marins de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Madagascar, des Comores. Et on fera probablement une expédition au Vietnam. Selon les pays, il faut obtenir des autorisations pour faire ces collectes. Cela dépend des négociations avec les différents gouvernements. Nous plongeons là où nous avons l'autorisation. On peut travailler dans les eaux territoriales des États, mais on ne peut pas aller dans les eaux internationales qui ne sont pas régulées par le protocole de Nagoya. On doit trouver un récif corallien, mais on peut aussi plonger en eau profonde.
Les zones les plus riches sont entre 20 et 30 mètres de profondeur. C'est là que nos plongeurs font les collectes. Ce sont des taxonomistes. Ils ont une longue expérience et savent ce qui a déjà été collecté et quelles espèces sont le plus susceptibles d'avoir une activité, celles qui ont apporté le plus de connaissances au fil des années, les éponges, les tunicata, les mollusques.
Selon les accords avec les pays, on ne peut collecter qu'entre 10 et 200 grammes par espèce.
Donc on entre dans le laboratoire avec un couloir où il y a des images des fonds sous-marins. Et puis les laboratoires derrière des vitres avec des hottes.
Quand l'échantillon arrive ici, au laboratoire, on prépare des extraits avec différents solvants organiques afin de déterminer quels sont les composés intéressants chez ces invertébrés. C'est pareil quand vous cuisinez. À la maison, quand vous préparez par exemple du riz, disons une paella espagnole, si vous souhaitez séparer les saveurs de chaque ingrédient, la viande, le poulet, il faut essayer d'isoler le riz, la viande, les épices. C'est pareil avec un composé anti-tumoral. Quand vous prenez un échantillon marin, vous mettez les solvants et vous essayez d'extraire tous les composants. On les met ensuite sur les cellules cancéreuses humaines et on voit si l'un des composants qu'on a isolé tue les cellules cancéreuses. L'une des étapes les plus difficiles au laboratoire de chimie, c'est ensuite de définir le procédé de synthèse permettant de reproduire le composé qui tue la cellule cancéreuse. On copie la nature.
Une autre porte. Je m'appelle Marie-Jésus Martin et je suis team leader ici dans le département de Chemical Process Medicinal Chemistry. Et ici, ce qu'on fait, c'est la synthèse de ces nouveaux composés.
Donc ici, on va copier la nature.
Oui, c'est ce qu'on fait, oui. On essaye de faire. Quoi.
C'est une étape qui prend du temps.
Mais ça peut prendre beaucoup d'années. C'est très, très compliqué. Il y a des fois que ça dépend surtout de la structure.
Est-ce que les organismes, les invertébrés marins, ont des composés, ont des molécules plus complexes que les organismes terrestres ?
Oui, et surtout différentes. C'est ce qu'on recherche aussi, donc que les structures soient différentes, parce que les plantes ou les organismes terrestres sont beaucoup plus travaillés, non ? Les organismes marins sont plus nouveaux et ils ont des structures très différentes qui peuvent nous aider à trouver des traitements différents et meilleurs, non ? L'environnement est beaucoup plus complexe dans la mer, non ? Donc les organismes essayent d'avoir des mécanismes de défense beaucoup plus compliqués et beaucoup plus avancés pour essayer de combattre cet environnement beaucoup plus compliqué que dans la Terre, non ? Dans le milieu terrestre, on peut courir, c'est beaucoup plus facile de se défendre, disons. Et dans le milieu marin aussi, l'eau, tout ce qui est dans l'eau et tous les déprédateurs font que c'est beaucoup plus difficile de se défendre de tout l'environnement. Non ? Donc c'est leur manière de se défendre, d'avoir des composés très toxiques. C'est leur seule défense, parce qu'ils ne peuvent pas bouger.
Est-ce qu'on commence à avoir une vision assez précise de tous ces mécanismes de défense, de toutes ces molécules qu'ils ont réussi au cours de l'évolution à développer, ou est-ce qu'on en est qu'au début de la découverte des capacités de ce monde marin ?
On a beaucoup avancé, mais je crois qu'il y a beaucoup de découvertes à faire encore, non ?
On en est qu'au début. Quand vous pensez que l'homme ne peut faire des prélèvements manuels qu'à une profondeur maximum de 100 mètres, alors qu'à 3000 mètres, il y a tellement de vie. Avec les progrès technologiques, les nouvelles techniques pour aller plus profond, on pourra découvrir de nouvelles molécules. La mer est largement inexplorée. On ne connaît qu'une infime partie de l'océan. Et il faut garder à l'esprit qu'on ne prélève que dans les eaux territoriales des pays, que près des côtes. Si on va au milieu de nulle part, probablement qu'on découvrira une multitude de choses. Mais on n'a pas encore les techniques pour descendre si profond et collecter des échantillons. Et ce serait impossible, en une vie entière, de découvrir tout ce qu'il y a dans la mer.
Ce qu'on entend, en fait, c'est l'automatisation de ce screening. C'est-à-dire qu'une machine déplace des plaques dans lesquelles il y a une quarantaine de petits trous. Dans ces petits trous, des cellules cancéreuses. Et puis, la machine vient arroser les cellules du principe actif qui est issu d'un organisme marin. Donc, 48 heures de culture avant de voir quelles cellules cancéreuses ont survécu et lesquelles sont mortes.
Je suis José María Fernández, fondateur et président de Pharmamar. La société a été fondée en 1986. Elle aura 40 ans l'an prochain. Nous avons décidé de chercher dans la mer des composés antitumoraux. Personne ne l'avait jamais fait de manière systématique avant nous. Même si les Romains, au temps de Pline l'Ancien, savaient déjà qu'un poisson marin, la raie, pouvait être utilisé, sa queue en l'occurrence, pour soigner les maux de dents. Les Chinois aussi ont utilisé des extraits marins pour soigner certaines maladies. Donc l'idée était là. Mais aucune industrie pharmaceutique ne s'était lancée pour voir ce qu'on pouvait trouver dans les océans pour traiter le cancer. C'est un processus compliqué. Mais notre premier principe actif a été homologué en 2007. C'était un moment important pour nous, car ça a confirmé notre hypothèse selon laquelle il y avait des antitumoraux à découvrir dans la mer. Notre premier médicament a été le Yondelis, destiné au sarcome des tissus mous, qui a aussi été approuvé pour le cancer de l'ovaire. Depuis, on a réussi à développer et à faire homologuer d'autres médicaments antitumoraux dérivés de la mer. On est concentré sur le cancer, même si on sait qu'on peut trouver dans la mer des antibiotiques, des antiviraux, des anti-inflammatoires. Mais pour avoir du succès, on a fait le choix de se focaliser sur les anticancéreux parce qu'il y a un vrai besoin. À l'heure actuelle, on a 3 médicaments qui ont été approuvés. Et je suis très optimiste sur le développement d'autres médicaments que nous avons en essai clinique, parce qu'ils ont déjà montré de bonnes réponses en phase 1. Et on sait qu'ils ont une bonne activité clinique. Certains ont même de meilleurs résultats en phase 1 des essais cliniques que les précédents. Donc vraiment, je pense que la mer continue d'être une très bonne source d'antitumoraux. Il y a une petite statistique. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique indique que seulement 5% des molécules qui sont en essai clinique atteignent le marché des médicaments. Mais nos statistiques internes montrent que sur 8 molécules qu'on a testées, 3 ont trouvé des débouchés sur le marché. Donc notre taux de succès est de 37,5%.
On l'a compris, cette jungle océanique qu'ils explorent surprend les chercheurs par l'étendue de sa biodiversité, comme sa richesse et son fonctionnement. Par exemple, parmi les milliers d'espèces de bactéries qui vivent dans la mer, sur les coraux notamment, 99% étaient totalement inconnus il y a 10 ans. Et c'est l'étude des génomes qui a conduit à ce résultat. Nous voilà à l'aube de nouvelles découvertes et de potentielles applications biotechnologiques, explique Luca Paoli, chercheur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Ce que la séquence d'ADN nous permet de faire, c'est vraiment grâce à des analyses bioinformatiques, grâce à des ordinateurs et des centres de calcul très puissants, d'analyser en parallèle des millions de génomes, des millions de gènes, pour trouver ceux qui ressemblent un peu à d'autres gènes que nous avons déjà caractérisés et qui nous ont permis de trouver des antibiotiques, des molécules cytotoxiques, donc avec des applications dans la chimiothérapie, ou des molécules antivirales. Et en caractérisant ces nouveaux gènes, c'est-à-dire en les synthétisant directement au laboratoire, on est capable, derrière, d'identifier les composés chimiques que ces gènes permettent de produire. Et c'est là que, du coup, on arrive à avoir accès à la diversité chimique qui est hébergée par toute cette diversité biologique qui est celle des océans.
Et est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle permet d'aller plus vite pour passer en revue ces méga banques de données ?
Tout à fait. Alors, ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est la quantité de données que l'on peut utiliser pour explorer cette diversité. Il y a à la fois les contributions d'expéditions telles que Tara Océan, Tara Pacifique, et aussi d'autres collaborations internationales qui ont permis de récolter énormément de données de séquençage à travers les océans et qui ont révélé surtout à quel point on ne connaissait que très peu de la diversité biologique dans les océans, de la diversité microbienne dans les océans. Ensuite, nos capacités de calcul, aidées de l'intelligence artificielle, l'analyse des gènes peut maintenant passer à une toute autre échelle et du coup à quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, ce qui nous permet plus facilement de trouver à la fois des gènes qui vont produire des produits naturels, mais aussi des protéines qui ont des nouvelles fonctions parce qu'elles ont des nouvelles structures.
Et quand vous dites nouvelles fonctions, ce n'est pas seulement médical.
Alors, ce n'est pas que médical. On peut penser à aussi des enzymes qui permettent de dégrader des plastiques. Donc, c'est ce qui a été montré dans l'étude de 2024, où des chercheurs principalement basés en Chine ont utilisé ces méthodes-là pour découvrir de nouvelles enzymes capables de dégrader le plastique sur la base de génomes de microbes océaniques.
C'est-à-dire qu'effectivement, cette biodiversité marine, elle est phénoménale, elle ouvre potentiellement beaucoup de portes.
Je pense qu'on ne se rend même pas encore compte de l'ampleur de cette diversité. Et donc à chaque fois qu'on se penche sur un nouvel écosystème ou un nouveau sous-écosystème des océans, on va découvrir une diversité phénoménale. Et cette diversité phénoménale, elle est aussi associée à un potentiel fonctionnel qu'on ne soupçonne pas encore. Et tout ce potentiel fonctionnel, c'est autant d'applications possibles derrière. Et un point qui est très intéressant de soulever aussi, quand on parle des coraux ou d'autres écosystèmes comme les océans polaires, c'est que c'est une diversité que nous n'avons pas encore décrite, pas encore cataloguée, et qui est déjà très impactée par nos activités, par le réchauffement climatique et par tout autre dérèglement d'origine humaine. Et donc, en fait, on est en train de potentiellement perdre cette diversité qui a tout ce potentiel fonctionnel avant même de l'avoir décrite, avant même de l'avoir sauvegardée et avant même de l'avoir pu, finalement, entre guillemets, l'exploiter.
Dans l'immensité de l'océan, la révolution de l'infiniment petit. Un reportage de Sophie Becherel, prise de son Virginie Lorda et Jérémy Thuil. Réalisation Gaëtan Colli, mixage Pierre Lemaire, attaché de production Martine Messonnier. Pour réécouter ce reportage et tous ceux de notre magazine Interception, abonnez-vous au podcast via l'application Radio France.